Bon, voilà. Nous avons à peine commencé la dernière fois les parler de les mines du compromis. On a parlé un peu de ce à quoi on pouvait s'attendre. Et là, on va un peu dire hein, qu'est-ce que c'est que la vérité sur le compromis. Un peu exposer ou exploser le compromis, d'enlever les mauvaises compréhensions qu'on pourrait avoir sur le sujet. Et de voir le compromis tel que Dieu le voit. Comme à chaque fois qu'on parle d'exposer ou exploser telle ou telle mine, c'est un peu ce qu'on veut dire. Nous, on a notre vue sur le sujet, le monde nous donne son point de vue, mais il faut voir qu'est-ce que Dieu dit sur le sujet, et ça nous révèle la vérité. Même si on avait un point de vue différent, c'est à nous de changer pour qu'on soit en accord avec ce que Dieu nous déclare. Alors, soyons clairs que quand nous parlons d'un compromis, on parle de nos. Pour cette étude, on va parler d'un compromis sur le niveau spirituel et biblique. Et on ne va pas parler des moments où on doit faire des compromis ou quand c'est une bonne chose. Comme on l'avait souligné la dernière fois, entre un homme et une femme, quand ils sont mariés, il faut qu'ils trouvent certains compromis dans certains endroits pour que le mariage puisse fonctionner correctement. On doit trouver des compromis au travail et autre chose. Il y a des compromis qui doivent être faits à différents endroits, à différents moments. C'est des bonnes choses. Mais on parle spécifiquement des compromis bibliques sur les doctrines, sur la façon que nous mettons en pratique les lois que Dieu nous donne dans sa parole. Donc, sur nos convictions spirituelles. À un moment dans notre vie, j'imagine que nous avons tous compromis même nos convictions à un moment donné. Et j'ai bien dit nous, hein, je m'associe à n'importe quel chrétien. On a peut-être pensé que ce n'était pas si grave que ça au moment qu'on l'a fait. Ou on a même peut-être pensé que c'était pour une bonne raison. Hein, je dis, je vais le faire juste cette fois-ci. Parce que si je ne le fais pas, je vais rendre la situation un peu complexe, confuse, ou mettre les autres mal à l'aise. Je fais juste pour cette fois-ci, mais le fait est, quelles que soient les raisons, on l'a fait. On a accepté le compromis. Et comme pour les autres mines que nous avons déjà vues, le compromis ne va pas toujours révéler les dégâts en avance. On ne va pas savoir, avant qu'elle n'explose, quels seront tous les résultats que ça va commettre. Mais comme les autres mines, elle voudra rester cachée et prendre le chrétien au piège pour attaquer sa foi, son témoignage, et à un moment donné, le rendre inutile pour l'œuvre du Seigneur. Il faut comprendre que pour avoir un compromis, c'est nous qui devons dire non à quelque chose que Dieu désire qu'on dise oui. Dieu veut qu'on fasse quelque chose pour lui, d'une certaine façon, pour une certaine raison, et nous on dit non pour satisfaire quelqu'un d'autre. Ça peut être nous-mêmes, ça peut être peu importe la personne ou la raison, ce n'est pas pour satisfaire Dieu que nous faisons ce compromis. Et on ne peut pas avoir de compromis tout en continuant à faire les choses exactement de la façon que Dieu nous a demandé de les faire. Sinon, ce n'est pas un compromis. Et en général, on va essayer de justifier cette différence, comme on dit, par notre raisonnement humain. Je vais donner un exemple, peut-être que vous pourrez penser à d'autres. C'est une personne qui. Nous, en tant que missionnaires, on a entendu ce genre de choses à plusieurs reprises, qui quittent le champ missionnaire, et la raison qu'il donne est la suivante. Si Dieu m'a appelé à être un témoin, mais les choses ne sont pas déroulées comme je le pensais sur le champ missionnaire qu'il était, je crois que Dieu veut que je sois heureux, alors je continue à être un témoin pour lui en travaillant maintenant dans ma ville natale. Je retourne chez moi et je vais être un témoin pour lui là-bas. Après tout, ils ont besoin du Seigneur aussi, et je peux faire ce que le Seigneur demande de moi, aussi bien ici qu'ailleurs. Mais la réponse à cette remarque, c'est non, ce n'est pas vrai. Et il est vrai qu'on peut et qu'on doit être un témoin partout où nous allons, peu importe si nous sommes chez nous ou dans un pays étranger. Mais voilà le genre de compromis qui nous empêche justement de faire ce que Dieu demande de nous. S'il nous a appelés, comme ma famille et moi, à être ses témoins en France, oui, je peux être un témoin pour lui aux États-Unis ou ailleurs, mais je ne serai plus obéissant, je ne serai plus soumis à sa volonté. Et je peux trouver toutes les excuses que je veux, mais je ne serai pas en règle avec lui. Et Dieu m'a appelé à être missionnaire en France. Et même si humainement j'ai la capacité de partager l'évangile partout ailleurs, je pourrais même rechercher les centaines de milliers de Français qui habitent aux États-Unis. Le reste, le fait reste, Dieu m'a appelé à servir ici. Et tout autre service est une désobéissance à sa volonté. Le compromis voudra minimiser cela, cacher un peu cette vérité. Et en nous soufflant des remarques telles que « Mais tu sers le Seigneur quand même, tu l'aimes, tu n'as pas renié Dieu, tu vis encore pour lui. C'est pas comme si tu tournais le dos à Dieu. C'est bien, tu continues à le servir. » Beaucoup d'autres chrétiens ne font même pas ça. Au moins, toi, tu le fais. Ils ne sont même pas fidèles à l'Église. Toi, au moins, tu continues à servir le Seigneur, même si ce n'est pas en France. Et donc, ce n'est pas si grave. Mais ça l'est. Parce que nous devons toujours être rapides à nous rappeler que Satan, et il va utiliser notre chair aussi, va toujours utiliser, sans exception, toujours un peu de vérité avec ses mensonges. Et le compromis est un bel exemple de cela. Il y a un peu de vérité, peut-être même une grande part de vérité, juste une toute petite part de mensonge. Mais comme vous le savez aussi bien que moi, il faut très peu de poison pour empoisonner toute la citerne. Ce n'est pas une question de pourcentage, c'est une question de « il n'en faut pas du tout ». Et Satan sait que nous ne serions pas aussi aptes à compromettre nos convictions s'il ne nous montrait pas un peu de vérité pour nous attirer avant. Rappelez-vous, Satan n'essaye pas de vous faire volte-face et ne pas obéir à Dieu entièrement. Il veut juste nous empêcher de servir Dieu à 100%. Et dès qu'il peut nous influencer à changer quoi que ce soit, même dans un petit endroit de notre vie, bah nous choisissons notre volonté au lieu de la volonté de Dieu. Et là, bah oui, Satan, il est heureux. Parce qu'il sait mieux que nous combien ses premiers pas est beaucoup plus suffisant pour nous mener très loin de la volonté de Dieu. Encore une fois, il ne cherche pas à ce qu'on renie Dieu à 100%. Il veut juste qu'on ne le serve pas à 100%. Et Dieu, il nous le rappelle. Il dit, soit tu es chaud, soit tu es froid. Je ne veux pas de tiède. Je ne veux pas de 60%, même pas de 90% pour moi. Je veux que tu sois à moi à 100%. Dieu, il le révèle à travers sa parole à maintes reprises. Il n'est jamais satisfait d'une obéissance partielle. Satan et notre chair ne sont pas ceux qui vont nous dire de faire attention quand on est tenté à faire un compromis. Ce n'est pas notre chair qui va dire oh, « Attention, c'est peut-être une mauvaise chose. » C'est pas Satan et notre chair qui vont nous dire de comparer ce que nous allons faire avec la parole de Dieu et la volonté de Dieu. Ils nous diront plutôt « T'inquiète pas, c'est pas grave. Oh, essaye, tu verras bien. Si ça marche pas, tu reviens en arrière. » Alors que le mal est déjà fait. Celui qui ne tente rien n'a rien. Ça, combien de fois est-ce qu'on l'entend? Sois impulsif pour une fois. Fais-toi plaisir. Tu ne le regretteras pas. Aie confiance en toi. Ne sois pas arrogant pensant que tu as raison et que les autres ont tort. Fais comme les autres. Compromis un peu. Alors, c'est le compromis, oui, on pourrait le comparer à une personne qui se laisse un peu emporter par le courant, n'est-ce pas? Il sera un fleuve, Hein, le monde est parfois, même une majorité de chrétiens ou personnes qui se disent chrétiennes, iront dans une certaine direction. Il sera plus facile de laisser aller que de faire l'effort pour aller contre-courant. Le compromis n'est pas toujours de faire quelque chose de grandiose, mais dans le fait de ne rien faire du tout parfois, ou du moins de ne pas faire comme les autres, et de refuser d'être comme les autres. De la même façon que Satan nous tentera avec ce qu'il sait être notre faiblesse, de même, il nous encouragera à compromettre dans les endroits où nos convictions ne sont pas si fortes que ça. Vous pouvez être spirituellement très fort dans certains domaines, et dans d'autres, c'est encore un apprentissage, c'est encore en train d'apprendre. C'est dans ces endroits-là que Satan va cibler ses compromis, parce qu'il sait que c'est déjà difficile, parce qu'il sait qu'il y a déjà une petite ouverture naturelle dans notre caractère pour ces choses. David, que nous avons utilisé comme un bel exemple sur comment ne pas marcher sur la mine de l'insécurité. Mais maintenant, au début de ce passage, on avait parlé de lui, mais comme un exemple de ce qui arrive quand on tombe dans le compromis avec Bathsheba. J'avais lu récemment, quelqu'un marquait, Satan ne mettra pas toujours un Goliath sur notre route pour nous arrêter. Ce sera parfois une Bathsheba. C'est dans le sens que le danger ne sera pas toujours aussi évident et imposant qu'un Goliath. Il peut être beaucoup plus subtil et sournois. Et on a tous nos faiblesses. Et nous connaissons le passage en 2 Samuel 11, quand David pécha avec Bathsheba. Nous parlons souvent de la façon que son péché l'a mené à commettre d'autres péchés, n'est-ce pas? Y compris le meurtre d'Uri, le mari de Bathsheba. Mais ce que nous voulons voir pour cette étude, c'est de nous rappeler que le tout a commencé avec cette petite décision de la part de David. Avant, une décision, comme pour tout compromis au début, semblait peut-être insignifiant et sans conséquence. C'est pas si grave. Je ne vais pas faire comme d'habitude. Je vais choisir de rester ici au lieu de partir avec mes troupes. Alors que c'était l'habitude du roi de partir avec ses troupes, surtout lui qui était guerrier, quand ils allaient au combat. Cette fois-ci, non, je vais rester. D'ailleurs, 2 Samuel 11, verset 1er, nous dit l'année suivante, au temps où les rois se mettaient en campagne. Donc c'était la saison des guerres. En France, on a la saison des. Oui, les grèves, je pensais. C'est la saison des grèves. Bon, c'est la saison les rois se mettaient en campagne. Dit David envoya Joab avec ses serviteurs et tout Israël pour détruire les fils d'Ammon et pour assiéger Rabba. Mais, pourquoi est-ce qu'il y a ce mais? Parce que ce n'est pas normal. Dit mais David resta à Jérusalem. Parce que la norme, c'était David alla avec. David faisait son rôle de roi, mais aussi son rôle de chef de guerre. Mais il resta. La Bible ne donne pas toutes les raisons de qu'est-ce qui s'est passé par la tête de David, pourquoi il a voulu rester. Mais il l'a fait. Et il s'est peut-être dit, c'est pas si grave. Je fais confiance à mes généraux, je fais confiance que le Seigneur nous donnera victoire, je fais confiance. Moi, je peux me reposer un peu. Je ne reste pas pour de mauvaises raisons. Je ne reste pas parce que j'ai envie de rencontrer quelqu'un. Je ne reste pas parce que je suis feignant. Je fais rien de mal. Je reste. Un petit compromis, humainement, qu'on pourrait dire, sans conséquence. Or, on sait ce qui s'est passé. Chose qui aurait été impossible s'il n'avait pas fait ce compromis, qui serait allé comme il le faisait d'habitude. Et sans cette première décision, le reste était impossible. Ensuite, il a vu cette femme en train de prendre son bain, il a pris une autre décision de continuer à regarder au lieu de tourner du regard, et au lieu de rentrer à l'intérieur, il a dû prendre plusieurs décisions, puis une autre décision, puis d'envoyer la chercher, puis une autre décision avec le mari, etc., etc. Et bien des années plus tard, des années. Nous voyons les conseils qu'il donne à son fils, lui, Salomon, conseils que je pense il a appris de ce compromis qu'il a mené a tellement de péchés. En 1 Roi, chapitre 2, verset 1 à 4, il dit: David approchait du moment de sa mort et il donna ses ordres à Salomon, son fils, en disant: Je m'en vais par le chemin de toute la terre, fortifie-toi et sois un homme. Observe les commandements de l'Éternel ton Dieu en marchant dans ses voies et en gardant ses lois, ses ordonnances, ses jugements et ses préceptes, selon ce qui est écrit dans la loi de Moïse, afin que tu réussisses dans tout ce que tu feras et partout où tu te tourneras. Et afin que l'Éternel accomplisse cette parole qu'il a prononcée sur moi, si tes fils prennent garde à leur voie, en marchant avec fidélité devant moi, de tout leur cœur et de toute leur âme, tu ne manqueras jamais de successeur sur le trône d'Israël. Je ne peux m'empêcher de lire ces conseils qu'il donne à Salomon sans que David ne pense à ce moment où il n'a pas suivi, il n'a pas observé les commandements, il n'a pas fait tout ce qu'il aurait dû faire. Il a fait ce petit compromis qui a eu des conséquences énormes, même sur des années suivantes. Il dit: Mon fils, ne sois pas comme moi, mais apprends, observe, marche dans ses voies, garde ses lois, garde ses ordonnances, ses jugements et ses préceptes, afin que tu réussisses. Prennent garde à leur voie et marchent avec fidélité devant moi. Et alors, si on sait ces choses, si je crois que même chacun d'entre nous, même l'inconverti, comprend que dès qu'on parle d'un compromis, c'est qu'il y a quelque chose de négatif. Et alors, pourquoi est-ce que nous acceptons parfois, ce n'est pas quelque chose qu'on fait tous les jours dans tous les domaines, mais pourquoi est-ce qu'il parfois on accepte le compromis? Qu'est-ce que vous en pensez? Là, vous n'allez pas faire Jérémy pour répondre.
C'est plus facile parfois le compromis. Ouais. Ce qui est bon, c'est plus difficile que le.
Pour se faciliter les choses. Ouais. Ouais. C'est vrai.
On a peur d'être mal vu des autres.
Oui, aussi.
Ou la
perte du corps. Ouais. Ouais, le fait d'être accepté ou d'être rejeté. C'est vrai.
Souvent, c'est parce que j'ai envie.
Ouais. C'est comme certaines tentations. On n'a pas vraiment besoin à ce qu'on nous tende le bras. C'est. On a déjà envie de le faire et. On accepte parce qu'on est faible spirituellement. Sur la page 37, on répond à cette question avec plusieurs raisons sur pourquoi il nous arrive parfois à accepter. On le sait d'avance, on sait ce qu'on est en train de faire, mais on choisit de le faire quand même. C'est comme il a été mentionné, l'une des premières choses, c'est à cause du doute et la peur et la crainte, on met les tout ensemble. Hein, le doute ne nous aide jamais à bien réfléchir. Quelqu'un qui doute, c'est quelqu'un qui n'est pas sûr. Et si on laisse ce doute planer, ça sera comme, un peu comme un voile devant nous, comme une vitre teintée, on verra, mais pas clairement. Elle nous empêche certainement de voir les choses telles que Dieu voudrait qu'on les voit. Et c'est pour ça qu'on va commencer à demander aux autres, pas à Dieu, pas dans sa parole, mais aux autres, un peu pour utiliser cette image, qu'est-ce que tu vois dans cette situation? Et ils vont nous dire les choses comme eux les voient, mais pas comment Dieu le voit. Et le doute et la crainte nous empêchent en même temps d'aller de l'avant. Ce sont des freins là où Dieu nous dit: vas-y, fais ceci. Et comme on dit, parfois, le compromis, ce n'est pas nécessairement de faire quelque chose, c'est de ne pas faire comme les autres. Et parfois, c'est de faire l'inverse des autres. Et quand Dieu dit, peu importe ce que font les autres, toi, tu fais comme ça, même si tu ne seras pas vu comme tu aimerais être vu des autres, fais-moi confiance. Vas-y quand même. Et on doit, combien de fois est-ce que la Bible nous dit d'avoir la crainte du Seigneur, c'est le commencement de la sagesse, prendre les bonnes décisions. La sagesse, c'est aussi de craindre la bonne personne au-dessus de tous les autres. La crainte du Seigneur, pas la crainte de mes voisins, ou la crainte de ma famille même. Dans les moments de crainte, on commence à croire des choses qu'ordinairement, on n'y prêterait même pas attention. quand Dieu nous dit d'y aller, on se posera des questions de mais qu'est-ce et si j'y arrive pas? Qu'est-ce qui se passe si je réussis pas? Ils vont dire que hein, je vaux rien, I'm a failure. Ou au lieu de si ça arrivait, si on n'a pas le résultat qu'il faut, pire, ce sera c'est un gros échec. Et alors là, si c'était le pire qui arrivait à la place, ou encore, est-ce que ça en vaut vraiment le coup de le faire, sachant que je vais être peut-être rejeté des autres, ou du moins incompris des autres? Est-ce que ça vaut vraiment le coup? Voilà le genre de questions auxquelles on ouvre la porte en prenant ce premier pas de compromis. Parce que notre crainte, notre doute nous poussera à continuer à faire d'autres compromis en espérant restaurer notre confiance et notre paix. Cette confiance et cette paix que nous avons seulement en Dieu et que Dieu ne donne seulement quand nous plaçons notre foi en lui. On doit se rappeler que notre force, notre confiance, notre paix ne se trouve jamais en nous-mêmes, dans nos capacités, on le dit, on le répète, mais en Dieu lui-même. Si nous doutons, c'est que nous doutons de nos capacités, mais on ne doit jamais se douter de ce que Dieu est capable. Si nous avons de la crainte, c'est que nous avons peur de ne pas réussir, alors que Dieu nous a promis de ne jamais nous laisser, ni nous abandonner, et que oui, on aura de la réussite. Que notre réussite ne dépend pas autant de nous que de notre soumission à Dieu, pour que lui puisse faire à travers nous comme bon lui semble. Alors le chrétien qui est stable, qui est fort et qui grandit dans sa vie chrétienne, c'est généralement le chrétien qui est confiant dans sa foi, pas confiant dans son caractère, pas confiant dans ses talents, pas confiant dans ses capacités, confiant dans la foi qu'il a de ce que Dieu peut faire à travers lui. C'est-à-dire qu'il ne remet pas en question facilement s'il doit faire confiance ou non en Dieu et en sa parole. Une fois qu'il a une direction claire de la part de Dieu, il dit, oui, je peux y aller. Il ne se pose pas toutes ces questions que la crainte et le doute donnent, parce que tout ça s'est remplacé par la foi en Dieu. Nous n'avons jamais raison de douter de la personne de Dieu ou de craindre que Dieu ne puisse pas se faire ce qu'il veut, même avec et à travers moi. On va dire juste une ou deux autres causes qui... même par rapport à cela, c'est notre péché ne sera jamais plus grand que sa grâce et son amour. Nous n'avons jamais raison de douter de son pardon. Nous pouvons confesser encore et encore sans crainte. Parfois, notre doute, notre crainte remet cela en question. On n'a aucune raison de le faire. Parfois, nous voulons éviter une confrontation ou un conflit. Au lieu de faire ce que nous savons être juste, faire ce que nous savons plaise à Dieu, on dit qu'on excusera notre choix en disant des choses comme ben, « je ne veux pas blesser l'autre personne, je ne veux pas créer de problème, je cherche la paix ». Dieu dit « il faut rechercher la paix après tout, n'est-ce pas ?» On choisit le compromis au lieu de choisir la vérité, au lieu de prendre position pour Dieu. Oui, on doit rechercher la paix et oui, on doit dire la vérité dans l'amour. C'est pas n'importe comment, pour n'importe quelle raison. Mais c'est la même excuse des personnes qui disent désirer l'unité et qui acceptent tout. Dans le milieu chrétien, dans les églises, combien se sont donnés pleinement au compromis pour le bien de l'unité, pour avoir le plus grand nombre aussi. Donc, ce qu'ils refusaient dans le passé de façon doctrinale, aujourd'hui, pas de problème. Mais désirer l'unité, c'est une chose, mais pas au prix d'être obligé de compromettre. Désirer l'unité ne devrait jamais venir au prix de la vérité, au prix de ce que Dieu a déclaré comme étant juste, selon ce que lui déclare être juste. On va terminer cette page pour dire, parfois certains chrétiens acceptent le compromis, ce qu'on l'a dit tout à l'heure, parce qu'ils veulent être acceptés et non rejetés. Mais encore une fois, leur priorité est mal placée ou sont mal placées. Ils devraient toujours vouloir être acceptés par Dieu, avoir son approbation plus que d'être acceptés par les autres. Oui, je peux faire des compromis sur le plan personnel, pour être accepté des personnes autour de moi, mais pas sur mes convictions spirituelles, pas sur mes convictions bibliques. Je peux accepter de faire certains compromis et pour justement, comme on dit, ne pas rechercher à avoir des problèmes, rechercher la paix, mais jamais dans le domaine des vérités bibliques et doctrines. Réalisons que les personnes qu'on veut faire plaisir aujourd'hui pourront tout aussi facilement ne plus nous accepter demain, même si nous faisons ces compromis, alors que Dieu nous aime d'un amour parfait. Hein, tous les jours, peu importe ce que nous faisons, ce que nous ne faisons pas, ça ne change pas son amour pour nous. Il n'aimera peut-être pas ce qu'on fait, mais il ne nous aimera pas moins pour autant. Alors que les personnes pour qui on accepte de faire ces compromis avec tous les dangers que cela implique, une fois qu'on a fait un compromis, ils en voudront toujours plus. Jusqu'à ce qu'on soit exactement comme eux. Ça, ce n'est plus un compromis. C'est une résignation. Alors, s'arrêter et reprendre, Dieu voulant, la semaine prochaine, en hall, page 38. Est-ce qu'il y a des questions ou commentaires par rapport à ce sujet du compromis, pour l'instant, les raisons surtout de pourquoi est-ce qu'on accepte le compromis.